Господин полковник, я что-то нашел. Сиди на карте! Меня так! Вид, вид! Допишите мне!
Рукоятого антиняна. Усенда куна панима.
Chapitre 4. Teresa Wagner.
C'était d'ici que venaient les voix qu'Elena entendait dans sa tête. C'était dans ce monde que des drames s'étaient déroulés. Elle s'arrêta de jouer et se retourna. Autour d'elle se dressaient les murs et les piliers de la cathédrale, sculptés de formes symétriques, en pointe ou en arrondi. Des vitres s'élevaient sur d'immenses hauteurs pour se terminer par une forme voûtée vers le ciel. Soudain, des cris vinrent du dehors. La lourde porte fit un bruit de choc lorsqu'un homme se jeta de toutes ses forces pour l'ouvrir précipitamment. L'orchestre s'arrêta de jouer et les 70 musiciens se retournèrent en même temps. « Ils arrivent ! Ils arrivent ! C'est une attaque ! Une attaque ! Vite, vite, dépêchez-vous ! Au souterrain ! Cria le premier violon. « Venez ! Suivez-nous ! Vite ! » dit-il en courant vers Elena et en l'entraînant par le bras. « Barricadez la porte ! » Un tromboniste et un timbalier coururent les 20 mètres qui les séparaient de la porte, mais n'eurent pas le temps de l'atteindre. Comme un claquement de dents. Puis un immense geyser de flammes s'engouffra dans l'embrasure de la porte et la fit basculer ouverte. Les deux hommes pris par les flammes, transformés en torches humaines, se roulèrent au sol en hurlant de douleur pendant quelques secondes. Derrière la porte se tenait une bête immense, effrayante, à la peau reptilienne et à la tête anguleuse, avec de grands yeux noirs au-dessus d'une mâchoire énorme. Braise en avant ! Montée sur son dragon, se tenait Sa Majesté Teresa Wagner, redoutable reine du monde des brouillards et compagne du seigneur Marx Igor, maître des âmes et des fantômes. « Attrapez-les tous ! Ne les laissez pas s'enfuir » cria-t-elle aux soldats. « Essayez de ne pas les tuer ! Ils me seront utiles vivants !» Les musiciens s'étaient précipités dans l'aile gauche de la cathédrale et se bousculaient pour entrer dans la sacristie. Au milieu de celle-ci, une grande trappe était ouverte dans le sol, dégageant l'entrée d'un escalier de pierre vers un souterrain obscur. Il n'y avait assez de place que pour deux musiciens côte à côte, et certains trébuchaient dans leur précipitation, tombant alors les uns sur les autres en criant. Elena s'était laissée entraîner, complètement dépassée par la brutalité et le choc de ce nouveau monde. Les instrumentistes n'étaient pas égaux devant l'urgence. Les flûtistes, les violonistes couraient avec leurs instruments. Les contrebassistes et la harpiste avaient dû les laisser derrière eux. Entre les deux se trouvaient des cas de conscience. Walter Andrew, premier violoncelliste de l'orchestre, n'avait pas pu abandonner son instrument fabriqué au XVIIe siècle à l'école de Venise. C'était un chef-d'œuvre de lutherie, fabriqué par des maîtres et avec des techniques aujourd'hui disparues. Suzanne Servion avait fait la même erreur avec son contrebasson. Elle ne parvenait pas à courir. Une ombre passa au-dessus de leur tête. Ils trébuchèrent et tombèrent à plat ventre, pris dans les mailles d'un filet lesté sous lequel ils ne pouvaient plus bouger. Leur dernière sensation fut celle d'une projection de gaz liquide et ils perdirent connaissance. « Poursuivez-les ! Dépêchez-vous, colonel Malit ! Qu'est-ce que vous attendez ? Enfoncez la porte, bon sang ! Et vous, emmenez-les à l'arrière ! À vos ordres, majesté ! Rissard, Dermor, avec moi ! » Le colonel Malit, monté sur son dragon, avança vers la porte fermée de la sacristie. « Fusion ! La porte ! Crash !» Le dragon balança son long cou en arrière, fit un claquement de dents, lança sa tête en avant et projeta un torrent de feu contre la double porte de bois qui s'embrasa immédiatement. En quelques secondes, l'obstacle perdit toute rigidité et Fusion, se dressant sur ses pattes arrière, poussa de ses bras courts la porte qui s'effondra à plat comme une vulgaire planche brûlée. À l'intérieur, la pièce était totalement vide. « Cherchez-les ! Il doit y avoir un passage ! Il faut le trouver ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous !» Les soldats envahissaient maintenant la sacristie, fouillant partout pour trouver le passage. Mais la porte, en tombant, avait masqué la jointure de la trappe. Les braises et les cendres fumantes obscurcissaient le sol et camouflaient les traces. Pendant ce temps, Teresa, restée dans la salle principale, crut entendre un hurlement de loup. Puis elle perçut des cris à l'extérieur, des bruits de pattes et des sabots au galop, des chocs, des soldats qui tombent, des chairs déchiquetées, des grognements, puis des dragons qui crachent, et toujours plus de galop, de cris, de heurts. Un messager entra en courant. « Majesté, nous sommes attaqués, des cavaliers et des loups, ils nous encerclent !» Dites au commandant Rogue-20 de lancer l'attaque des Pteros.
Mais Majesté, les Pteros ne sont pas là.
Comment ? Furieuse, les pupilles rouges de colère, la reine Teresa fit faire demi-tour à Braise et se précipita dehors.
Envoyez un messager à Igor immédiatement. Et dites-lui qu'il nous faut une attaque des Pteros tout de suite et de toute force. Allez !
Bien, ma reine. Si nous n'avons pas d'appui par les airs, nous sommes trop divisés, trop dispersés. Il va falloir nous regrouper.
Teresa observa la scène une minute, prit sa décision, fit demi-tour à nouveau et rentra dans l'église en appelant ses dragonniers.
Brusien, Formar, venez avec moi à l'intérieur.
Pendant ce temps, dans la sacristie enfumée et dévastée,
« J'ai trouvé quelque chose, mon colonel !»
cria Dermor.
« Une sorte de levier !»« Allez-y, actionnez-le, soldat !»
dit le colonel Malit. Il se sentit soudain secoué, comme si quelque chose s'était soulevé du sol. La trappe de pierre et de métal avait tenté de s'ouvrir, mais avait été écrasée par le poids de la porte et du dragon qui se tenait dessus. Le mécanisme s'était bloqué, ne laissant qu'une ouverture d'une dizaine de centimètres.
« Le passage ! Allez chercher des barres de fer, des rondins, des cordes ! Vite ! Vite ! Prenez n'importe quoi, tout ce qui peut faire levier ! Prenez aussi quelque chose qui fasse crochet, que je puisse tirer avec le dragon !»
Dans le souterrain, les musiciens se pressaient dans un tunnel voûté, assez large, aux parois mélangées de pierre et de terre, éclairées par des appliques murales à la lumière faible et jaunâtre. Tout un tas de câbles et de tuyaux étaient apparents. Jean-Gaël Poussier, premier violon de l'orchestre, entraînait Elena d'un pas rapide.
C'était un vieux souterrain très ancien qui avait été réaménagé pendant la Grande Guerre. Nous l'avons juste un peu nettoyé et retapé. Tu vas voir, nous allons arriver à un très bel endroit où nous avons notre salle de réunion secrète.
Depuis combien de temps vivez-vous comme ça ?
Ça doit faire un an à peu près.
Et mes parents ? Ils étaient avec vous il y a quelques mois ?
Comment ils s'appellent, tes parents ?
Victorio Canta et ma mère Isolde Canta.
Tosca ? Mais bien sûr que je la connais ! Magnifique chanteuse, et Victorio était notre chef. Malheureusement, il a voulu s'interposer lors d'une attaque, et lui et Tosca ont disparu, probablement capturés par Marc Sigor.
Marc Sigor ? Qui est-ce ?
C'est un puissant enchanteur. Il utilise un sort qui envoûte les humains et les transforme en fantômes esclaves à son service et à celui de l'horrible reine Teresa que tu as vue à l'œuvre aujourd'hui.
Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Comment savoir vraiment ? En tout cas, aucun grand pouvoir. Aucune grande fortune, aucun grand empire ne s'est construit sans esclaves ou peuple opprimé. Combien faut-il de pauvres pour faire un riche ? Combien de serfs pour un noble ? Combien d'ouvriers pour un grand patron ? Combien d'esclaves pour un pharaon ? C'est la loi du pouvoir qui existe depuis le début de l'humanité. Maintenant, dire vraiment pourquoi, je ne le sais pas. C'est comme ça. Il paraît qu'on est tous égaux.
Dans la sacristie, un soldat a couru.
Colonel Malit, la reine vous ordonne de vous replier et de la rejoindre dans la salle principale immédiatement.
Mais le souterrain, nous venons juste de le trouver.
Pourquoi perdait-il son temps à parler à un messager ? De plus, il avait appris à ses dépens qu'il ne fallait jamais argumenter avec une femme en colère, et surtout lorsque c'était une reine et qu'elle avait le pouvoir absolu sur les dragons, et notamment le sien, Braise, un énorme mâle reproducteur de 10 tonnes et de 12 mètres de long. À côté, Fusion, le dragon du colonel Malit, avec ses 5 tonnes et ses 6 mètres de la tête à la queue, paraissait tout chétif, si encore cette race de dragons avait pu voler. Malheureusement, ceux-ci ressemblaient plus à des dinosaures qu'à des oiseaux. Et s'ils n'avaient pas eu la capacité de cracher leur salive de napalm enflammé, ils n'auraient rien été d'autre que de vulgaires descendants de leur colosse préhistorique.
Colonel Malit, rassemblez votre unité et organisez la retraite. Mais avant, brûlez tout.
Un éclair rouge s'alluma un instant dans ses pupilles, trahissant une colère intérieure.
À vos ordres, Majesté.
Il ordonna à deux dragonniers de s'aligner avec lui de front. Ils avancèrent lentement dans le sens de la longueur de la nef, balayant de leurs jets de feu l'espace devant eux. Tous les 10 mètres, ils faisaient une pause. Les dragons ne crachaient pas en continu. Ils devaient saliver. Pour 3 secondes de flamme, ils devaient recharger pendant 30 secondes environ. Devant eux, les objets de bois, chaises, instruments, partitions, tissus décoratifs se consumaient. Les dragons les écrasaient sans peine, protégés du feu par leur épaisse cuirasse reptilienne.
Elena et Jean-Gaël arrivaient maintenant dans une immense salle presque rectangulaire. Contrairement au tunnel, celle-ci était décorée, lumineuse, avec des murs lisses et droits.
C'est magnifique.
Oui, nous en sommes assez fiers. Il faut dire que nous passons malheureusement de plus en plus de temps ici. Comme tu le vois, cette pièce fait office de salle de réunion, mais aussi de réfectoire, de dortoir, bref, toutes les fonctions d'un abri.
Une vingtaine de musiciens les avaient précédés, et une quarantaine se pressait encore dans le tunnel.
Lorsque tout le monde sera rentré, nous fermerons le sas en Kevlar qui résiste aux napalms des dragons. De toute façon, un dragon ne pourrait pas passer le tunnel, mais on sait jamais.
Il fit visiter le lieu, tel un guide touristique dont on sentait la fierté. C'était un peu étrange dans un contexte aussi dramatique. Mais mieux valait-il le prendre comme un indice rassurant. Apparemment, Jean-Gaël était certain qu'ils étaient en sécurité. Et c'était confortable de s'en laisser convaincre. Comme un homme avec sa voiture, mieux valait lui laisser croire qu'elle était la plus belle et la plus rapide. Et qu'on était tellement en admiration.
Nous avons une ventilation directe qui monte verticalement à la surface vers un lieu camouflé. Nous avons des réserves de nourriture et d'eau. Et l'électricité est autoproduite par la géothermie. Nous sommes insonorisés du dehors et la température est constante et agréable. Ici, nous avons un monitoring de contrôle avec des radars protégés des fortes températures qui nous permettent de voir s'il y a présence d'intrus ou non. Tiens, regarde. Là, tu vois qu'il n'y a plus de mouvement dans la cathédrale, mais que dehors, il y a un fort mouvement vers l'est.
Qu'est-ce qu'il y a à l'est ?
L'est, c'est le monde des brouillards. C'est de là que viennent Teresa, les dragons et ses mercenaires soldats.
C'est donc par là que sont partis mes parents.
Oui. Et aujourd'hui, ils ont fait deux autres prisonniers, Suzanne Servion et Walter Andrew. Bonjour, vous êtes Elena, je crois. Je suis Megan Roberts. C'est moi qui tiens le registre des présences de l'orchestre. Sans compter que nous avons perdu Michel Romblot et Jacques Châtelier.
Perdu ? Perdu comment ?
Ils se sont trouvés sur le passage du dragon quand il a enfoncé la porte.
D'un coup, la fierté avait laissé place à la tristesse. Jean-Gaël revoyait le visage des amis qu'il venait de perdre. Il avait étudié au conservatoire avec Walter, et ils avaient connu les mêmes joies et les mêmes épreuves. L'angoisse des concours, le trac des auditions, la fatigue des tournées, la joie de se retrouver finalement ensemble dans cet orchestre. Et puis, si Walter était parti, le prochain serait peut-être lui, Jean-Gaël. Et contre cela, son souterrain n'avait rien pu faire. Pendant ce temps, à la surface de ce monde des brouillards, 8 cavaliers lourdement armés et couverts d'une armure anti-feu se rapprochaient au pas d'un bosquet au pied d'une colline. Il n'aurait pas été supportable pour Fayeur de ne pas marcher devant. Chaque fois que Sohan avait essayé, il se mettait à piétiner sur place, à baver, à tourner dans tous les sens. C'était donc lui, devant son copain Presto, qui menait la troupe vers l'entrée du souterrain. Ils arrivèrent devant un lieu recouvert des branches d'un saule pleureur, de fougères et de lierre. Malgré l'habitude, Presto était tout à fait content que Fayeur passe en premier au travers de cet écran opaque. Le cavalier devait à la fois écarter les branches et se baisser au maximum, car derrière se trouvait l'entrée de la grotte de pierre, et elle était bien basse. Presto était grand, et Kostia devait se laisser glisser sur le flanc pour passer. Après une entrée assez obscure, ils arrivaient dans une belle écurie assez spacieuse, où la paille et le foin les attendaient. Constantin et Sohan, côte à côte, démontaient le harnachement de leur cheval. Kostia, moins soigneux, terminait toujours plus vite. En plus, en fils de ferme, on pouvait vraiment dire qu'il avait fait ça toute sa vie. Il n'allait pas rater cette trop belle occasion d'embêter Sohan.
Oh, mais dis-moi, on dirait que t'as un côté plus rouge que l'autre.
Laisse-moi tranquille, fous-moi la paix!
Ah non, moi ce que j'en dis, hein, je pense juste que la prochaine fois, tu devrais attaquer sur ta gauche, pour égaliser. Ta crème solaire, c'est quel indice? À mon avis, c'est pas assez.
Oh, t'es lourd!
Lourd? C'est le cas de le dire. T'as vu un peu la tranchée que j'ai creusée quand j'ai chargé à fond devant avec Presto? Ça, c'était du lourd.
Ouais, je dois dire que c'était pas mal, j'avoue. Mais bon, avec Fayeur, on a un style de combat un peu moins bourrin. Faut dire que nous, on a un cerveau, ça aide. Au fait, tu sais, il y a un truc que je voulais te dire depuis un certain temps. Les ficelles sur les côtés, tu sais, les rênes. Eh ben, avec, tu peux tourner si tu veux. T'es pas obligé d'aller tout droit.
Ah, d'accord. C'est ça, ça sert à ça, ces trucs-là. Ah bah ouais, alors faudrait que j'essaie pour voir, hein.
Il aidait maintenant Sohan en apportant du foin et en rangeant son équipement.
Il n'empêche que tes esquives subtiles, à un moment, heureusement que j'étais là pour faire diversion, hein, parce que sinon on aurait eu de la Sohan grillée sauce barbecue. D'ailleurs, à un moment, j'ai senti une bouffée de chaleur. En fait, j'avais un briquet aux fesses et je me suis pris un tir par l'arrière. Heureusement, j'étais hors de portée, mais j'ai senti le chaud. Hein. Tout à coup, j'ai cru qu'on avait ouvert la porte d'un four. T'as qu'à voir, les crins de la queue de Presto sont tout recroquevillés.
Ouais, merci. Mais je trouve que t'es pas assez prudent. Tu passes trop près. Et la vitesse, c'est bien, mais un jour, tu peux te faire coincer à tout le temps partir devant comme ça. Tu devrais rester plus en groupe avec nous.
Ouais, mademoiselle a son petit cœur qui bat. Ouh là là, il faut rester derrière tranquille. Mais forcément, le combat, c'est pas un truc de fille. C'est normal que t'aies peur, ma petite.
Oh, d'accord. Mesdames et messieurs, nous venons de retrouver l'homme de Cro-Magnon. Il est ici.